VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
17h à Abidjan, 19h à Bujumbura. Bienvenue dans notre journal. Aujourd'hui, dans l'actualité africaine, le Parlement rwandais a ouvert la voie au maintien au pouvoir du président Paul Kagame au-delà de 2017. En soutenant sans surprise une pétition de quelque 4 millions de Rwandais pour faire sauter le verrou des deux mandats autorisés dans la Constitution, sénateurs et députés se sont prononcés à l'unanimité dans leurs chambres respectives en faveur d'une réforme constitutionnelle. Des amendements devront cependant encore être votés, puis une nouvelle Constitution formellement soumise à un référendum de la population. L'ex-chef de la junte guinéenne Moussa Dadis Camara, interrogé hier à Ouagadougou par des magistrats guinéens, a nié son implication dans le massacre du stade de Conakry en 2009, mais il a reconnu une responsabilité morale selon son avocat, maître Jean-Baptiste Jokameaba, interrogé par l'AFP. À une semaine d'une présidentielle controversée, le président ougandais Yoweri Museveni a entamé mardi à Bujumbura une délicate médiation dans la crise burundaise, entrée dans une nouvelle phase avec des combats armés. Jacques Aristide.
Un séjour de 24 heures pour tenter de régler la crise politique au Burundi, c'est la tâche qui a été confiée au chef de l'État ougandais par la communauté est-africaine après l'échec de deux médiateurs onusiens. Peu après son arrivée dans la capitale burundaise, Yoweri Museveni a rencontré le président Pierre Nkurunziza en tête-à-tête à l'hôtel Bel Air, rapporte l'AFP. Il a ensuite rejoint une salle de conférence où étaient réunies les parties prenantes à la crise, des ministres dont celui des relations extérieures, Aimé Alain Nyamitwe, des opposants dont le principal adversaire de Nkurunziza, Agathon Rwasa, mais aussi des représentants de la société civile. Au cœur du problème, la candidature de Nkurunziza à un troisième mandat, Museveni, lui-même au pouvoir depuis environ 30 ans et qui ne cache pas vouloir se représenter l'an prochain, doit persuader l'opposition de renoncer à son boycott du processus électoral. Un dialogue qui se déroule sur fond de violence. Le week-end dernier, l'armée burundaise a affronté un groupe armé dans deux provinces frontalières du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Combats qui ont alimenté des rumeurs d'une offensive à l'approche de la présidentielle du 21 juillet.
République démocratique du Congo, à présent, Human Rights Watch, organisation de défense des droits humains, demande au gouvernement congolais et à la MONUSCO, la mission onusienne sur place, d'arrêter Sylvestre Munda Chumura, le chef des FDLR, les forces démocratiques de libération du Rwanda, opérant dans l'est du pays, qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale depuis 3 ans. Les explications d'Anneke van Vandenbergla, chercheuse principale à la division Afrique de Human Rights Watch.
Son groupe continue à commettre des violations de droits de l'homme. Et juste dernièrement, il y a quelques mois, il y avait un directeur d'une école et son fils qui, selon les FDLR, ont donné des informations à des autorités de où se trouve un groupe des FDLR. Et les FDLR avaient décapité ce directeur de l'école et son fils. Ils ont mis les têtes sur des bâtons en vue de tout le monde. Donc c'est cette type d'atrocité qui continue. Le moment est venu que cet monsieur est arrêté. Je suis sûre que le gouvernement congolais et les casques bleus de la MONUSCO ont la capacité d'arrêter Sylvestre Munda Chumura. Les choses qui manquent, c'est une stratégie pour identifier où il se trouve et une stratégie pour l'arrêter. 3 ans après que ce mandat d'arrêt était lancé par le Cour pénale internationale, nous tous, nous attendons son arrestation.
Anneke van Woudenbergla de Human Rights Watch. La lutte contre Ebola en Afrique de l'Ouest, course contre la montre hier en Sierra Leone. Les autorités y ont proclamé une alerte sanitaire. Le motif, la fuite pendant quelques heures de 2 malades d'Ebola de leur unité de traitement alors que le pays tente d'enrayer la propagation de l'épidémie, repartie à la hausse depuis près de 2 mois. Jacques Aristide.
Les deux malades sont une femme de 32 ans et une fille de 8 ans, sans lien de parenté, qui ont réussi à s'échapper ensemble samedi matin de l'unité de traitement d'Ebola où elles étaient prises en charge à Hastings, dans la banlieue de Freetown, la capitale. L'information que rapporte l'AFP provient du Centre national de lutte contre Ebola. Toutes deux ont été retrouvées samedi dans la soirée. Les équipes d'enquête suivaient leur parcours pour identifier le nombre de personnes avec lesquelles elles ont été en contact durant la période de leur évasion. La semaine dernière, la Sierra Leone a annoncé la prolongation pour une durée indéterminée du couvre-feu nocturne en vigueur depuis le 12 juin dans des zones affectées des régions de Cambia et Port Loko dans le nord-ouest du pays.
Au Kenya, le centre commercial Westgate de Nairobi va rouvrir ses portes cette semaine. Il y a près de 2 ans, les islamistes somaliens Shebab y perpétraient un terrible attentat où 67 personnes étaient tuées. Depuis cette attaque, les Shebab ont multiplié les attaques spectaculaires au Kenya, auxquelles ils reprochent son intervention militaire dans le sud somalien depuis octobre 2011. En avril, les insurgés affiliés à Al-Qaïda ont massacré 148 personnes dans l'université de Garissa. Depuis un an, ils ont aussi multiplié les raids meurtriers sur la côte kényane, notamment près de l'archipel de Lamu, autrefois destination touristique très courue. Le risque d'attentat reste d'ailleurs bien présent au Kenya, où le président américain Barack Obama doit s'effectuer sa première visite en tant que locataire de la Maison Blanche fin juillet. Et puis à Addis Abeba, en Éthiopie, second jour du sommet anti-pauvreté visant à trouver des sources de financement pour le développement des pays les moins avancés, dont la plupart sont en Afrique. La réunion continue jusqu'à jeudi.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Et l'actualité dans le reste du monde, l'Iran et les grandes puissances ont conclu un accord historique qui rend quasi impossible la construction d'une bombe atomique par Téhéran. Plus de détails avec Idriss Fall.
Les 109 pages de l'accord limitent les ambitions de Téhéran qui s'engage à réduire ses capacités nucléaires et à laisser les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique procéder à des inspections plus poussées de ses sites militaires. L'Iran va ainsi bénéficier d'une levée progressive des sanctions adoptées depuis 2006. L'embargo sur les armes a été reconduit pour 5 ans, sauf autorisation spécifique du Conseil de sécurité. Cet accord nous donne une chance d'aller dans une nouvelle direction, d'après le président Barack Obama, qui souligne qu'il est fondé sur les vérifications et non pas sur la confiance. Le Congrès américain, dominé par les républicains, a 60 jours pour examiner le texte. C'est aussi un succès pour le président iranien Hassan Rouhani, qui a promis que son pays ne se doterait jamais de la bombe atomique. Paris, Londres, l'Union européenne ou l'ONU ont salué cette percée, mais Israël a dénoncé une erreur historique qui, selon Benjamin Netanyahou, va permettre à l'Iran de financer sa machine de terreur.
Et puis aux États-Unis, presque un an après la mort d'Eric Garner à New York, la ville a annoncé avoir trouvé un accord financier avec la famille de ce noir américain décédé après une interpellation avec la police, une interpellation de la police, une mort qui avait entraîné un concert de protestations dans le pays. Nicolas Pineau.
5,9 millions de dollars, c'est la somme qu'a versée la ville de New York à la famille d'Eric Garner pour éviter des poursuites civiles contre son département de police. La famille réclamait bien plus, 75 millions de dollars, pour négligence, imprudence et manque de soins. C'est le contrôleur général des finances de New York, Scott Stringer, qui a annoncé ce lundi l'accord conclu avec la famille du père de 6 enfants. La mort d'Eric Garner avait suscité beaucoup d'émotion et de colère aux États-Unis. À 43 ans et soupçonné de vente illégale de cigarettes, ce colosse noir avait été plaqué au sol par plusieurs policiers blancs le 17 juillet 2014 à Staten Island, à New York, après avoir tenté de résister. Dans une vidéo amateur de l'incident, on voit l'un des policiers lui serrer le cou, une pratique illégale à New York. Obèse et asthmatique, Garner se plaint à plusieurs reprises de ne pas pouvoir respirer avant de perdre connaissance. Il avait été déclaré mort d'un malaise cardiaque à son arrivée à l'hôpital. Sur le plan pénal, un grand jury a décidé en décembre de ne pas inculper le policier blanc ayant utilisé cette technique interdite. Cela avait entraîné une vague de manifestations parfois violentes dans un contexte de vive tension après plusieurs affaires de brutalité policière envers des Noirs aux États-Unis depuis l'été 2014.
Et c'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'information dans 20 minutes pour notre édition du soir Le Monde Aujourd'hui, présentée aujourd'hui par Nathalie Barge et Chérubin Dorsil. Restez avec nous 24 heures sur 24 sur notre site internet voafrique.com, mais également sur notre page Facebook. Très bonne soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.